Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Marine Le Pen, présidente du Front National.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce lundi 29 mai où Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles, au château de Versailles. Il déroule le tapis rouge. Il a promis un dialogue exigeant avec le chef du Kremlin. Doit-il lui répéter que la Russie a envahi l'Ukraine ? Évoquer avec lui le sort brutal réservé aux opposants russes, parler du traitement infligé aux homosexuels en Tchétchénie. Est-ce que Vladimir Poutine mérite cet accueil en France ou un autre ?
Bon, d'abord, à l'international, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de ce que souhaite faire Emmanuel Macron. Personne n'a très bien compris dans quelle direction il allait. On a vu des concours de biceps, bon, c'est très bien, ça fait parler la presse. Mais pourquoi faire ? Ça reste quand même un point d'interrogation. Moi, je me réjouis.
On dit qu'il fait un sans-faute pour ce début sur la scène internationale. C'est pas votre avis, alors ?
Mais non, mais pour faire quoi ? Où il va ? Où il veut mener la France ?
C'est déjà bien de ne pas avoir trébuché.
Qu'est-ce qu'il veut faire ? On n'a aucun élément sur ce sujet. Bon, donc ce serait quand même bien que les Français puissent avoir des éléments précis sur ce sujet. Moi, je me réjouis que Vladimir Poutine soit accueilli en France. Et je pense qu'il faut évidemment normaliser les relations avec la Russie. La Russie est un très grand pays. La question n'est pas de savoir si on apprécie ou si on n'apprécie pas tel ou tel aspect des affaires intérieures russes. La question est de savoir est-ce que l'on doit travailler avec la Russie et les États-Unis, d'ailleurs, notamment pour lutter contre le fondamentalisme islamiste, car il est là, le gigantesque défi qui est celui des relations internationales aujourd'hui, et surtout le gigantesque danger qui pèse sur les Français. On a été payé pour le savoir, y compris évidemment avec l'intervention du terrifiant attentat de Manchester et de celui qui a eu lieu en Égypte et qui a tué près de 23 personnes, dont un grand nombre d'enfants.
Alors à ce sujet, pour Emmanuel Macron, l'absence de l'Europe à la table des négociations sur la Syrie, qui ne réunit pour l'instant, si je puis dire, que les Russes, les Turcs et les Iraniens, est une défaite. Est-ce que les Européens doivent être associés, en effet, à cette négociation. Est-ce que Emmanuel Macron doit, sur ce plan-là, obtenir une concession de Vladimir Poutine ?
Mais pardon, mais le sujet n'est pas là. C'est la France qui s'est exclue de ces négociations. C'est la France qui, en partie d'abord, est responsable du chaos libyen et en partie du chaos syrien.
Mais la France est engagée dans la coalition internationale contre l'État islamique.
C'est elle qui refusait de discuter avec la Syrie. C'est elle qui refusait de s'asseoir à la même table que la Russie.
Eh bien, c'est révolu, dit Emmanuel Macron. Il faut discuter avec la Russie. Je veux être associé au titre européen.
Je pense que c'est une bonne chose, parce que je crois qu'il n'y a que dans une discussion diplomatique avec l'ensemble des puissances qui ont leur mot à dire, évidemment, dans le domaine de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, il n'y a que dans cette coordination, coopération, que l'on pourra trouver les éléments pour lutter efficacement contre ce gigantesque danger.
Donc vous nous dites que c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron, au nom de l'Europe, demande une place à cette table de négociation.
Et pour y dire quoi ?
Ah ben, ça c'est une autre chose,
d'accord,
mais au moins, puisqu'il participe à la coalition anti-État islamique dans la région, au moins pouvoir parler effectivement au titre des autres acteurs.
Ce qui serait bien, c'est que les Français sachent pour y dire quoi. Voilà. Pour y faire,
vous dites c'est flou. Les intentions en matière internationale d'Emmanuel Macron, pour l'instant, sont floues. Il a réussi sa poignée de main, il a réussi à imposer une stature, mais au-delà, il n'y a rien. C'est ce que vous nous dites.
J'attends, moi, encore une fois, des clarifications sur cette politique internationale.
Vous avez annoncé la semaine dernière chez nos confrères de LCP des assises de l'opposition après les législatives. L'opposition, c'est vous ?
Oui, nous sommes à la tête de l'opposition, bien entendu.
Pourquoi ?
D'abord parce que les Français l'ont décidé lors du second tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est la première chose. Parce que nous avons réuni un Français sur trois dans cette élection présidentielle et parce que nous sommes les seuls à être véritablement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Moi, pardon, enfin, quand j'entends 170 élus responsables républicains pleurnicher pour que Emmanuel Macron leur prenne la main.
Des centaines et des centaines.
Leur prenne la main quand j'entends les déclarations déclaration de M. Raffarin expliquant qu'il faut que la droite aide M. Macron, et surtout quand j'entends M. Barouin expliquer qu'il veut un partage des responsabilités, excusez-moi, mais un partage des responsabilités,
si
ça ressemble...
Si il est majoritaire à l'Assemblée,
oui,
dit-il.
Oui, ça ressemble, ça ressemble presque à un mariage.
Il est pro-Macron, François Barouin?
Bah, en tout cas, il a appelé à voter pour lui.
Au deuxième tour, contre vous. Tout ce qui n'est pas Front National est pro-Macron.
Jean-Luc
Mélenchon, il est pro-Macron.
Eh bien, chère madame, ça crée des liens d'avoir appelé à voter pour M. Macron. Donc on voit que l'opération de séduction réciproque n'a pas démarré en réalité il y a quelques jours, mais il y a quelques semaines.
Jean-Luc Mélenchon, il est pro-Macron? Lui qui veut aussi un groupe.
Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas appelé à voter pour M. Macron. Beaucoup de ses cadres, il faut être honnête, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais surtout, il y a autre chose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Dès cet été, M. Macron a annoncé qu'il allait lancer par ordonnance la mise en œuvre d'une loi El Khomri puissance 10, c'est-à-dire une loi de précarisation et de dérégulation du travail. Mais les Républicains sont pour, puisqu'au moment de la loi El Khomri, ils expliquaient que précisément la loi El Khomri n'était pas allée assez loin dans la dérégulation.
Si
donc qui va
Marine
être la seule opposition à cette loi El Khomri puissance 10? C'est évidemment le Front National, mais aussi Debout la France, car c'est vrai que cette opposition, elle est aujourd'hui incarnée par nos deux mouvements qui avancent en même temps de manière indépendante, mais en étant partenaire dans cette élection législative.
Marine Le Pen, sur la loi travail, ce matin, vous dites seuls les Républicains sont pour cette loi travail puissance 100 que veut Emmanuel Macron. Mais les Français aussi.
J'avais dit 10, mais vous êtes peut-être mieux informé que moi.
C'est parce que j'ai le nez sur les sondages. Un sondage Elab dans les Échos ce matin qui nous disent que seuls 6% des Français sondés réclament de ne rien faire. Autrement dit, seuls 6% des Français sont d'accord avec un statu quo sur la loi travail. Donc, eux aussi, les Français, ils souhaitent une réforme du Code du travail.
Mais ça veut dire quoi? Réclament de ne rien faire. Personne ne dit qu'il ne faut rien faire. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire
44% sont favorables à une refonte en profondeur du Code
du
travail.
Mais ça ne veut rien dire.
Profondeur.
Mais ça ne veut strictement rien dire, cela. Une réforme en profondeur, c'est vraiment un sondage pour rien, honnêtement. Bon, pardon, ça veut strictement rien dire. La question, est-ce que les Français veulent plus de précarité dans le travail? Est-ce que les Français veulent plus de dérégulation du travail? Je pense que la réponse est non. Et d'ailleurs, pourquoi M. Valls a utilisé le 49-3 pour faire passer la loi El Khomri? C'est parce qu'il savait pertinemment que le peuple français était opposé à cette loi El Khomri. Et l'ordonnance, là encore, c'est le 49-3 puissance 10.
Vous dites, l'opposition, c'est nous, c'est le Front National. Mais encore une fois, ça dépend tout de même de votre poids à l'Assemblée. Imaginez que le parti Les Républicains est plus de députés que vous, serez-vous l'incarnation?
Mais qu'est-ce que ça change, puisqu'ils ne sont pas dans l'opposition? Qu'est-ce que ça va changer? La réalité, c'est qu'encore une fois, la vraie opposition, les seuls qui sont là pour s'opposer à la politique d'austérité que M. Macron veut mettre en œuvre à la demande de Mme Merkel, à la politique multiculturaliste qu'il veut mettre en œuvre pour faire plaisir à M. Trudeau, à la politique d'immigration massive.
Les digues ont tenu entre le parti Les Républicains et le Front National.
À la politique d'immigration massive qui va avoir lieu, parce que je rappelle quand même aux Français, en tout cas je leur apprends, parce qu'on en entend parler quasiment nulle part, qu'il y a 10 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes, notamment en 4 jours. Donc cette gigantesque vague migratoire, elle continue et même elle s'accélère. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne veut pas préserver la France de cette vague migratoire. Bien au contraire, il est allé expliquer en Italie, enfin au Premier ministre italien, qu'en gros... il allait l'aider. Or, comment est-ce qu'on va l'aider? On va l'aider en prenant, encore une fois, une part de ces centaines de milliers de migrants qui arrivent.
Ce à quoi vous êtes opposé à ce jour. À ce jour, les digues ont tenu entre le Parti Les Républicains et le Front National. C'est une déception pour vous?
Mais il n'y a plus de Parti Les Républicains. Il est où, le Parti Les Républicains? Il est atomisé.
Attendez, vous qui dites ce sont les Français qui choisissent.
Mais les Républicains sont atomisés.
Attendez,
mais ça ne change rien. Ils sont atomisés. Nous sommes dans une grande recomposition de la vie politique. Et encore une fois, cet enthousiasmant.
Comment vous l'expliquez? Parce que c'est la logique de parti.
Nous allons jouer un rôle essentiel dans cette recomposition. Au sein des Républicains aujourd'hui, il y a une grande partie qui sont pour Emmanuel Macron et il y en a un certain nombre qui sont opposés.
Par exemple, Laurent Wauquiez, c'est Marion Maréchal Le Pen qui a dit dans Valeurs Actuelles qu'avec un grand élu comme Laurent Wauquiez, il y a des choses à faire ensemble. C'est aussi votre avis?
Elle a dit un grand élu comme.
Non, moi je dis que.
Ah d'accord, c'est vous qui l'avez dit.
C'est un élu. Okay. Bah, c'est quand même le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. C'est
oui,
pas
d'accord.
Peu, voilà, c'est quelqu'un oui, qui compte dans la famille. Il est républicain. Vous aussi, vous êtes une grande élue.
Est-il représentatif? Plus personne n'est représentatif au sein des Républicains. Encore une fois, ce mouvement est atomisé et par conséquent, il faut reconstruire une véritable opposition dans notre pays avec des gens qui, je suis sûr,
après les législatives, c'est une main tendue.
Mais pas, mais non, à l'automne, mais même à la limite, je tendrai la main à tous les élus qui sont opposés à la politique d'Emmanuel Macron. De droite ou de gauche, vous avez raison de le dire, parce qu'elle est là, il est là le vrai chantier de la recomposition de la vie politique.
Alors vous dites que les partis républicains, c'est un parti atomisé, et le Front National, c'est pas un parti déstabilisé après cette défaite ?
Non, je crois pas. Honnêtement, je suis sur le terrain, et moi je vois des gens qui sont extrêmement solides, très déterminés. J'entends dire qu'il y aurait des problèmes au Front National.
Bah oui,
moi, honnêtement, il n'y en a pas.
Un front anti-Philippot qui grossit.
Non, mais il n'y en a pas. Mais non, mais ça c'est ce que vous vendez dans les journaux, sur les radios, ça n'existe pas dans la réalité.
Il n'y a pas de front.
Dans la réalité, le Front National est intégralement, encore une fois, converge intégralement vers ses législatives. Le mouvement est uni. Il est assis aujourd'hui sur 11 millions de Français qui lui ont accordé leur confiance au second tour de l'élection présidentielle.
Vous espérez combien d'élus ? Un groupe au moins ?
Mais un maximum d'élus. Je ne peux pas vous dire mieux. Personne n'est aujourd'hui capable de faire des projections. Et à la limite, tant mieux. Après tout,
c'est ça aussi les
joies de l'élection. Donc le plus grand nombre possible, parce qu'encore une fois, nous sommes une assurance pour les Français. L'assurance de ne pas se faire acheter, de ne pas se compromettre avec la politique d'Emmanuel Macron.
Mais c'est pas très clair quand même, excusez-moi, la situation de Florian Philippot. Par exemple, bon, il crée les Patriotes, c'est quoi ? C'est un courant ?
C'est une association, c'est un think tank en fait, c'est une association qui vise à réfléchir au chantier que nous allons ouvrir après les législatives.
Et vous êtes d'accord avec cette initiative ?
Mais il peut y en avoir.
Parce que certains disent, mais elle laisse faire Marine Le Pen, elle a tort de laisser grandir Florian Philippot et de faire un courant finalement qui pourrait être un peu rival.
Mais qui dit ça ? Mais personne ne dit ça, écoutez.
Jean-Richard Sulzer, membre du bureau politique du Front National.
Chaque fois que je vous demande qui, vous me sortez une personne. Enfin écoutez, moi je veux bien.
Il n'y en a pas plus, c'est très marginal.
Mais c'est marginal, d'autant qu'encore une fois, tout le monde va participer à ce chantier de modernisation, d'élargissement de la base du Front National.
Il doit rester au Front National, Florian Philippot, il doit rester.
Mais tout le monde doit rester.
Vous sembliez dire il y a quelques jours, et vous sembliez envisager son départ, puis vous avez dit que finalement il avait apporté énormément au parti.
Mais je n'envisage pas le départ de Florian Philippot. Je dis qu'on peut très bien avoir des débats, et ces débats vont exister, ils sont sains, c'est un fonctionnement démocratique, on peut même ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais personne n'a à quitter le Front National pour cela. Ça n'a pas de sens.
Les Patriotes, ce sera un bon nom pour un Front National ripolliné du sol au plafond, comme on dit ?
Non. Si les adhérents du Front National décident de changer de nom, ce ne sera pas celui-là. Mais encore une fois, je pense que si nous grandissons et si nous nous modernisons et si nous rénovons aussi la structure, c'est précisément parce que en arrivant au second tour de l'élection présidentielle et en ayant réuni 11 millions de Français, nous avons d'ores et déjà dépassé le Front National traditionnel.
Un dernier mot, s'il vous plaît, pour commenter une information du journal Le Monde. Une ancienne attachée de presse, Marie-Sophie Boumard, affirme avoir travaillé 6 mois pour le groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen, à votre service, sans contrat de travail. Vous connaissez cette jeune femme qui fait cette accusation ?
Oui, bien sûr, je la connais, mais cette accusation est absolument infondée. Elle était prestataire extérieure, elle a été payée pour cela, et trop, je vais vous dire franchement, à mon goût, pour le travail qu'elle a effectué.
Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL.
On ne connaît pas la politique étrangère d'Emmanuel Macron, nous a notamment dit Marine Le Pen, mais en tout cas, la France doit parler avec la Russie comme les États-Unis pour lutter contre le fondamentalisme islamique. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à l'une et à l'autre.